VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil et Tatiana Mosso, bonsoir et bienvenue à l'édition du 3 août 2015. À la une ce soir.
10 soldats tués ce lundi dans le nord du Mali. L'attaque a eu lieu tôt ce matin dans un camp de l'armée malienne dans la région de Tombouctou.
Au Burundi, une des principales personnalités de l'opposition aura été victime d'un attentat aujourd'hui. On aura des précisions avec Eric Manirakiza.
Et on reviendra sur la mort du général Chirimana, pilier du régime de Pierre Nkurunziza, dans une attaque à la roquette à Bujumbura. L'Union africaine appelle au dialogue.
Côte d'Ivoire, perpétuité requise contre un officier pro-Gbagbo, le commandant Anselme Seka Yapo.
Le président Barack Obama lance un nouveau plan pour lutter contre les changements climatiques. Le dirigeant américain a d'autre part rencontré aujourd'hui quelques 500 jeunes leaders africains.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Dans le nord du Mali, ce matin, un camp de l'armée malienne a été attaqué par des terroristes faisant 10 morts parmi les soldats maliens. Le gouvernement de Modibo Keïta rassure que cette attaque, qu'il qualifie de lâche et barbare, ne restera pas impunie. De Gao, les précisions de Boubacar Touré.
Selon une source contactée sur place, l'attaque a eu lieu aux environs de 5h30 heure locale. 10 soldats maliens ont été froidement abattus, un véhicule militaire a été emporté et un autre a été brûlé par les assaillants. Un soldat blessé est admis au centre de santé. On ne sait rien de l'identité des assaillants, d'aucuns pensent que les auteurs seraient les éléments du groupe islamiste en sardine de Yad Agagali. D'autres pointent du doigt le groupe terroriste Al-Murabitoun. Cette attaque survient deux jours après une embuscade djihadiste tendue à l'armée malienne à Nampala vers la frontière mauritanienne, faisant 2 morts et 4 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Hier dimanche, dans la région de Gao, un commerçant de la ville a été enlevé par des hommes en armes se revendiquant du groupe terroriste Al-Mirabutoun à Al-Moustrad dans le cercle de Bourem. Les autorités maliennes, tout en rassurant les populations, rappellent que ces actes qu'elles qualifient de lâches et barbares ne resteront pas impunis et n'entameront en rien la détermination du Mali et ses partenaires dans le processus de paix. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
D'Ivoire, perpétuité requise contre un officier pro-Gbagbo. Le commandant Anselme Seka Yapo est poursuivi dans le procès de 9 officiers ivoiriens fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo durant la crise post-électorale de 2010-2011. Surnommé Seka Seka, l'ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo est accusé de meurtre. Il est également poursuivi pour blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes. Il plaide non coupable.
Le directeur au Gabon, le directeur du cabinet du président gabonais Ali Bongo, Meksan Akrombessi, a été placé en garde à vue à Paris dans le cadre d'une enquête sur l'attribution à une entreprise française d'un marché public au Gabon. Il a été interpellé à l'aéroport de Roissy alors qu'il allait prendre un avion pour Libreville, puis a été placé en garde à vue pour corruption d'argent public étranger.
Un des dirigeants de la société civile au Burundi a été victime d'un attentat. Aujourd'hui, Pierre Claver Bonimpa serait à l'hôpital. Eric Manirakiza, de quoi s'agit-il exactement ?
Il est à l'hôpital, il a été atteint au cou et au visage, grièvement blessé. C'était en fin d'après-midi vers 18h15. Selon des sources contactées par VOA Afrique sur le terrain, ils disent qu'il allait chez lui et après il y a un motard qui est venu derrière lui et qui a tiré sur lui.
Donc il a été blessé par balle.
Il a été blessé par balle. Et maintenant, il est en soins intensifs dans un hôpital à Bujumbura, la polyclinique centrale.
Bref rappel, Pierre Claver Bonimpa, c'est qui ?
C'est l'activiste le plus respecté dans le pays, en âge et aussi dans ses travaux. Il défend les droits des prisonniers. Et le 23 mai 2014, il a été emprisonné parce qu'il avait dénoncé les entraînements paramilitaires des jeunes affiliés au parti au pouvoir dans l'Est du Congo. Il a été libéré le 30 septembre 2014 et à l'époque, même le président des États-Unis avait prononcé son nom aux Nations Unies.
Merci Eric Manirakiza. On reviendra un peu plus tard sur ce sujet. Toujours au Burundi.
Retour au calme dans la capitale ou presque, Bujumbura, au lendemain de l'assassinat du général Chirimirimana, ancien patron des services secrets et proche du président burundais. Des coups de feu ont été entendus hier soir dans différents quartiers du nord de la capitale. Le point avec Christophe Kourounziza.
Les activités étaient normales ce lundi matin dans la capitale Bujumbura. Les enfants sont partis à l'école et les différents magasins étaient ouverts au centre-ville. Deux roquettes ont été lancées dimanche matin sur la voiture du général Adolphe Nshimirimana. Il a donc été assassiné sur le champ avec ses gardes dans le quartier de Kamenge au nord-est de Bujumbura. Dans un discours hier à la Nation, le président Pierre Nkurunziza a déclaré à la radio et télévision nationale que la mort de l'ancien chef des services secrets est une grande perte pour la nation burundaise. Pierre Nkurunziza a ordonné que des enquêtes ne dépassant pas une semaine soient menées pour identifier les tueurs et les amener devant la justice. Pour le moment, au moins 6 personnes ont été arrêtées, mais la date et les arrangements funéraires ne sont pas encore annoncés. Le responsable de la cellule communication à la présidence de la République, Willy Nyamitwe, a indiqué que le pouvoir burundais a été touché en plein cœur et que Pierre Nkurunziza a été très affecté par la disparition de son ami personnel avec lequel il aimait jouer au football. Mais les membres de la société civile burundaise soupçonnent Adolphe Nshimirimana d'être impliqué dans de nombreuses exécutions extrajudiciaires et dans l'assassinat de 3 religieuses à Kamenge en 2014. Il était considéré par de nombreux Burundais comme le véritable patron de la milice Imbonerakure. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour la Voix de l'Amérique.
République centrafricaine, la MINUSCA attaquée à Bangui. La force des Nations Unies et la police centrafricaine ont mené une opération visant à arrêter un responsable de l'ex-Séléka dans le quartier de PK5 à Bangui, mais rien ne s'est déroulé comme prévu.
Le Soudan prêt à donner des garanties aux rebelles en vue des pourparlers. Le gouvernement a affirmé qu'il était prêt à offrir des garanties judiciaires aux mouvements rebelles qui affrontent l'armée afin qu'ils participent à des négociations à Khartoum. Le président Omar El-Béchir, recherché depuis 2009 par la CPI pour crimes de guerre dans cette région, a appelé en janvier à un dialogue national, mais aucune discussion n'a eu lieu jusqu'alors.
Afrique du Sud, le procès de Julius Malema, repoussé de 24 heures, le jeune leader des combattants pour la liberté économique, a demandé aujourd'hui à être jugé rapidement, alors que son procès pour corruption a été une nouvelle fois reporté d'une journée en raison de l'absence d'un des accusés malade.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La police israélienne a ouvert une enquête sur des menaces publiées sur les réseaux sociaux contre le président Reuven Rivlin. Il avait condamné le terrorisme juif après un incendie criminel qui a tué un bébé palestinien vendredi. Les précisions d'Idrissa Saïdoudia.
L'ouverture de cette enquête a été confirmée à l'AFP par le porte-parole de M. Rivlin. Pour rappel, le jour même de l'attaque anti-palestinienne, M. Rivlin a publié sur sa page Facebook un texte en arabe et en hébreu intitulé « Plus que de la honte, je ressens de la douleur ». L'attaque, le fait de colons juifs, selon les Palestiniens, a provoqué la consternation en Israël et lancé un débat parmi Israéliens et Palestiniens sur l'impunité qu'accorderaient les autorités israéliennes aux extrémistes juifs. Aucun suspect n'a été arrêté jusque-là. On se souvient qu'en 1995, le premier ministre Yitzhak Rabin a été assassiné lors d'un rassemblement pour la paix à Tel Aviv par un activiste d'extrême droite après une campagne virulente menée par la droite contre les accords d'Oslo signés avec les Palestiniens 2 ans auparavant.
Barack Obama invite les jeunes leaders africains à être des ambassadeurs pour le changement positif de leur continent. Il s'est exprimé lors d'un échange avec plus de 500 jeunes africains au terme d'une formation et de renforcement de capacités, entre autres dans les universités américaines. Cet échange rentre dans le cadre de son initiative pour les jeunes leaders africains, Yali. Eli Isango.
Évoquant la lutte contre les extrémistes, le président américain a soutenu une stratégie consistant en un partenariat plus accru avec la société civile. Pour Barack Obama, l'intervention militaire ne peut venir qu'en dernière instance pour faire cesser l'enregistrement des jeunes, a-t-il dit. Tout en restant fidèle à nos valeurs, nous sommes déterminés à lutter contre Boko Haram et Al-Qaïda dans le monde, mais il ne s'agit pas seulement de faire intervenir la police et l'armée, mais d'aller vers les populations touchées, donc il faut encourager des partenariats avec la société civile, a affirmé M. Barack Obama, répondant à la question d'une participante au Yali. Barack Obama, qui est l'initiateur de cette plateforme, a aussi indiqué qu'il soutenait l'idée d'une représentation africaine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il a appelé les continents à plus de responsabilités. Pour lui, la structure et la composition du Conseil de sécurité doivent prendre en compte les régions du monde non représentées. Pour Obama, les jeunes leaders, mais aussi toute l'Afrique, doivent lutter contre toute forme de discrimination et abandonner toutes sortes de traditions comme la violence faite à la femme, aux enfants et aux personnes avec handicap.
Les affrontements entre l'armée turque et les rebelles kurdes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, ont fait de nouvelles victimes. Les raids de l'armée ont tué au moins 10 civils ce week-end. Accusation démentie par les militaires turcs. De leur côté, ils font état d'assaut de la rébellion. Ces attaques n'ont fait aucune victime. L'armée affirme avoir tué plus de 260 combattants dans les bombardements.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Michel Joseph.
Le ministre ivoirien délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, a promis pendant le week-end à Bouaké que le fonds d'aide à la jeunesse dénommé Agir pour les jeunes sera bientôt opérationnel sur tout le territoire ivoirien après sa phase pilote qui ne couvre que 10 régions du pays. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à la fin du lancement de l'édition 2015 de la caravane Jeunesse saine, protège-toi. La Suisse vient d'allouer au Burkina Faso une subvention de 12,3 milliards de francs CFA destinée au financement de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Pour une première phase, couvrant la période 2015-2018, a appris l'agence APA auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Le financement, qui couvrira les régions du Nord, de l'Est, du Centre-Ouest et du Sahel, a pour objectif principal de permettre aux communes et aux régions de fournir de meilleurs services publics, améliorant ainsi la qualité de vie des hommes et des femmes et facilitant les activités économiques. Plus de 6,5 milliards de francs CFA seront distribués cette année au Cameroun dans le cadre du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales en vue de financer jusqu'en 2016 près de 8000 projets agropastoraux à travers le pays.
Merci Michel pour la Minute Éco.
C'est lundi, c'est plein feu sur les stades avec VOA Afrique. Salut Nicolas Pinault.
Bonsoir Chérubin.
Dans l'actualité sportive ce soir, football, on connaît le nom des pays qualifiés pour le championnat d'Afrique des Espoirs qui aura lieu au Sénégal.
En décembre prochain à Dakar, et une grosse surprise a eu lieu ce week-end, la Côte d'Ivoire a été éliminée au tir au but face à la Zambie. Après un match nul 0-0 à Abidjan, les jeunes zambiens ont donc arraché leur qualification à domicile, 4 tirs au but à 3. La Tunisie a réussi à renverser la vapeur face au Maroc, une victoire 2-0 acquise à domicile, notamment grâce à un pénalty généreux en fin de match. Quant au tenant du titre gabonais, il a été éliminé à Bamako par le Mali, 2 buts à 0. A noter aussi que le Nigeria élimine le Congo, 2 buts à 1. Ça passe aussi pour l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Chérubin, on rappelle que les trois premiers de ce championnat d'Afrique seront qualifiés pour les Jeux Olympiques 2016.
Et l'Union européenne de football sanctionne le racisme.
Le club polonais du Lech Poznan a été sanctionné d'un match à huis clos et d'une amende en raison de la présence en tribune d'une pancarte raciste. C'était lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. S'il se qualifie mercredi à Bâle, lors du troisième tour préliminaire de la C1, le Lech Poznan disputera son prochain match de compétition européenne à domicile à huis clos. Le club polonais a en outre écopé d'une amende de 50 000 euros, a précisé l'UEFA sur son site internet.
Natation, l'américaine Ledecky, reine des bassins.
La jeune Katie Ledecky a battu son 8e record du monde en améliorant sa propre marque sur 1500 mètres nage libre, dames en 15 minutes 27 secondes et 71 centièmes lors des séries des mondiaux 2015 à Kazan en Russie. Il s'agit du 4e record du monde que Ledecky bat sur 1500 mètres libre, une distance non olympique pour laquelle elle détient le titre mondial. L'américaine a réalisé sa performance au lendemain de sa victoire sur 400 mètres libre où elle a conservé sa couronne.
Belle performance. Merci Nicolas Pinault pour les sports. Nicolas que l'on retrouve à 19h, temps universel, dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être en votre compagnie, Chérubin Dorsil et Tatiana Mosso. Alors, Tatiana, place au dossier du jour.
Au Nigeria, l'armée poursuit son offensive contre les islamistes de Boko Haram après ses visites au Niger, au Tchad et au Cameroun, pays de la ligne de front, ainsi qu'au Bénin. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est engagé à en finir d'ici décembre avec le groupe islamiste. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur Ali Buhari de l'université de l'État de Nasarawa à Kefi, près d'Abuja.
Suite à la visite que le président Mohamed Buhari a rendu en République du Bénin, le résultat commence à porter des fruits escomptés. Le Bénin, bien qu'il ne soit pas concerné par les menaces de Boko Haram, va déployer 800 soldats au sein des forces multinationales pour lutter contre le fléau de Boko Haram. À ce moment que je vous parle, l'armée nigériane mène des acquis terrestres et on a libéré presque 200 personnes aux forêts de Sambisa, qui est le fief de Boko Haram. Mais parmi les gens libérés, notamment c'est tous des femmes et des enfants. Les rebelles de Boko Haram sont maintenant à Devadand, donc souper l'armée nigériane avec les autres forces du pays limitrophes du Tchad vont mener une victoire écrasante contre Boko Haram. Le président Mohamed Buhari lui-même vient d'affirmer aujourd'hui que d'ici décembre, on ne parlera plus de Boko Haram.
La visite du président Buhari au Cameroun était très attendue. Quelle évaluation en fait-on au Nigeria?
Les gens sont très contents parce que les régimes précédents jouaient un genre de chat et de souris avec les Camerounais. On s'entretenait ensemble, mais le gouvernement nigérien en place à ce moment-là n'était vraiment pas sincère pour faire face aux problèmes de Boko Haram. Donc le Cameroun a perdu l'espoir, mais avec l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Buhari, le président Paul Biya lui-même avait dépêché un envoyé spécial pour féliciter le président Mohamed Buhari, parce qu'il sait qu'avec les nouveaux régimes en place, les Camerounais et les Nigériens vont collaborer ensemble pour lutter contre les menaces de Boko Haram.
Le professeur Ali Buhari de l'université de l'État de Nasarawa, près d'Abuja.
Cap sur l'est de la République démocratique du Congo pour parler de l'inauguration de la piste pour vols internationaux de l'aéroport international de Goma. Cette piste retrouve sa longueur d'origine de 3000 mètres, 13 ans après la coulée de lave du volcan Nyiragongo. Ce lundi, le président Joseph Kabila l'a inauguré et lancé en même temps les travaux de construction d'une tour de contrôle et d'un aérogare. On écoute le reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Après 10 ans de travaux sur cette piste, lesquels travaux étaient entrecoupés par des guerres à répétition dans et autour de Goma, enfin, la piste de l'aéroport international de Goma vient de recouvrir sa longueur initiale de 3000 mètres qui était amputée d'environ 1000 mètres par la coulée de la lave du volcan Nyiragongo en 2002. Ce qui a causé dans un espace de 10 ans plus de 5 accidents de crash d'avion. Pour le gouverneur de la province du Nord Kivu, la modernisation de cet aéroport va non seulement ouvrir la ville de Goma au monde, mais l'économie aussi sera boostée. Ici, Gilem Paloukou, le gouverneur du Nord Kivu.
Grâce à cette réalisation, des gros porteurs vont décoller et atterrir sur Goma. Des compagnies internationales vont être plus nombreuses. Des emplois vont devoir se créer. Des jeunes vont être encadrés pour ainsi limiter la prétention d'aller chercher la vie dans les rangs des groupes armés.
L'aéroport de Goma se dotera aussi de nouveaux équipements pour renforcer la sécurité aérienne sur l'espace de Goma, rassure le directeur de la régie des voies aériennes en RDC.
La RVA a entrepris plusieurs autres travaux, d'équipements pour l'amélioration de la sécurité et de la sûreté de l'aéroport de Goma. Il s'agit notamment de l'installation d'un vol de demain de nouvelle génération, qui est un système de traceur de route aérienne, de l'installation d'un détecteur de bagages au rayon X, ainsi que de la mise en place d'un système de balisage illuminé de pistes définitif.
L'événement n'a pas laissé inanime les Gomatraciens qui, selon certains, c'est un espoir qui vient de renaître.
La modernisation de ces infrastructures, même les pays de la sous-région vont en profiter largement parce que c'est un aéroport qui va accueillir beaucoup de compagnies internationales.
J'ai très bien applaudi, j'ai même sursauté quand j'ai suivi le discours du ministre et le discours du gouverneur. Cela ne dit pas que nous n'allons pas continuer à dire nous attendons l'œuvre, nous attendons la matérialisation, nous attendons Ethiopian Air commencer à voler ici.
Les opérateurs du secteur minier pensent que l'ouverture de l'aéroport de Goma aux vols internationaux va faciliter l'évacuation de leurs marchandises qui, cette fois-ci, ne va plus transiter dans les pays voisins comme c'est ce fait actuellement. Ici, Seninga Jean Bosco, un opérateur du secteur minier œuvrant dans la cité de Rubaya à Masisi.
Vous savez que les minerais aussi, ils ne sont pas consommés ici. Ça fait objet d'une exportation, d'où ça va attirer les investisseurs à venir acheter.
Depuis Goma, Charlie Kasereka pour la VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Coup d'envoi ici à Washington de la seconde édition du sommet Yali, l'initiative du président Barack Obama pour les jeunes leaders africains. Les précisions de Timothée Donang Mai.
On behalf of the American people. Welcome to the United States. We are thrilled to have you here.
Le chef de l'exécutif américain a souhaité une chaleureuse bienvenue aux 500 jeunes leaders conviés à Washington pour ce sommet. Rappelant son récent séjour au Kenya et en Éthiopie, le président des États-Unis s'est dit résolument optimiste au sujet du continent.
Even as Africa continues to confront many challenges, Africa is on the move.
Bien que l'Afrique continue d'être confrontée à de nombreux défis, l'Afrique est un continent en marche. C'est l'une des régions du monde connaissant la plus rapide croissance et les projections situent la croissance de sa classe moyenne à plus d'un milliard de consommateurs, a dit le président américain. Pour Barack Obama, la jeunesse africaine est le moteur de cette transformation du continent qui s'est traduite par des gains sur divers fronts, notamment la lutte contre la maladie et la pauvreté. Le chef de l'exécutif américain a cité plusieurs jeunes qui contribuent au développement de leur pays et de leur communauté. L'initiative Yali vise justement à leur donner accès aux ressources dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets et travailler ensemble sur des idées novatrices, a-t-il souligné. Barack Obama a annoncé la mise en œuvre de sa promesse l'année dernière d'ouvrir des centres régionaux de leadership du programme Yali en Afrique.
And in Kenya, I had a chance to visit the Regional Leadership Center in Nairobi. Just this morning, we opened a new center in Accra.
Au Kenya, j'ai eu l'occasion de visiter le centre régional de leadership de Nairobi. Et ce matin même, nous avons ouvert un centre régional à Accra. Deux autres ouvriront leurs portes d'ici la fin de l'année à Pretoria et Dakar. Il ne s'agit pas uniquement de faire venir des jeunes Africains à Washington, a fait savoir le président Obama.
Up to 80 young American leaders will join Yali and go to Africa to learn from you and your countries.
Jusqu'à 80 jeunes leaders américains rejoindront le programme Yali pour se rendre en Afrique et apprendre de vous et de vos pays, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Le réseau Yali compte maintenant plus de 140 000 membres et le président Obama a annoncé que le nombre de jeunes participants au sommet annuel de Washington passera de 500 cette année à 1 millier l'année prochaine.
Merci Timothée Dounagmaï. Nous allons maintenant sur place avec Bagassi Koura. Bagassi qui a suivi les échanges aujourd'hui entre le président Barack Obama et ses jeunes leaders africains. Allô Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Et si l'on revenait sur les points forts de cette rencontre?
Oui, il faut le dire, hein, c'était quand même le moment très attendu par la plupart des participants ici. Hein. C'est la deuxième rencontre après celle de l'année dernière entre Barack Obama et ses 500 jeunes africains. Obama a d'abord prononcé un bref discours, puis il y a eu ces échanges qui ont duré plus d'une heure entre lui et les jeunes Africains qui ont posé énormément de questions. Certains sont revenus sur le soutien éventuel des États-Unis pour une place de conseil de sécurité pour l'Afrique. Les questions ont été concernées sur l'entrepreneuriat en Afrique. Est-ce que les États-Unis vont financer l'entrepreneuriat sur le continent? Oui, a dit le président Barack Obama, qui a annoncé que 1 milliard de dollars, comme l'a souligné Tim, 1 milliard de dollars a déjà été mobilisé pour financer l'entrepreneuriat sur le continent. Il a aussi annoncé que le programme Yali va continuer, même si lui, il quitte la Maison-Blanche dans 18 mois. Il va tout faire pour institutionnaliser l'événement. Et Obama s'est aussi prononcé sur le fait que le programme va être un peu délocalisé avec l'ouverture d'un centre aujourd'hui à Accra. Et d'ici la fin de l'année, on aura jusqu'à 4 centres en Afrique du Sud, au Nigeria et au Sénégal.
Oui, Timothée Dolangma nous a parlé un peu de ce qu'a dit le président Obama. Vous étiez dans la salle Bagassi-Koura. Comment était le rapport entre le chef de l'exécutif américain et ses jeunes leaders africains?
Oui, la salle était quand même... les gens étaient assez très, très intéressés. Dès qu'il est rentré, la salle s'est surchauffée. Tout le monde s'est mis debout. Et les échanges, Obama, bien sûr, ne pouvait pas prendre toutes les questions parce que tout le monde voulait lui poser des questions. Et les questions, elles étaient multiples, comme je le disais, cette question sur le Conseil de sécurité. Il y a aussi ce jeune albinos du Kenya qui a demandé à Barack Obama est-ce qu'il voudrait bien intervenir pour interpeller les leaders africains pour qu'ils cessent de marginaliser les albinos sur le continent. Vous savez que les albinos sont très, très marginalisés et même certains sont victimes de crimes dans des pays comme la Tanzanie. Et Obama a aussi évoqué la question des femmes. Il dit que pour savoir qu'un pays se porte bien, que pour mesurer donc la santé économique d'un pays, il suffit de voir comment ce pays traite ses femmes. Il a dénoncé certaines traditions. Il dit que ce n'est pas parce que nos grands-parents pratiquaient faisaient certaines pratiques qu'il faut aujourd'hui les perpétuer. Et donc, il a dénoncé cela en faisant allusion, bien sûr, à la façon dont certains handicapés moteurs ou bien des personnes malvoyantes sur le continent sont maltraitées.
Bagassi-Koura, dans de nombreux pays, et bien sûr en Afrique, beaucoup de jeunes ne pensent qu'à émigrer. Le président Obama a parlé de la fuite des cerveaux sur le continent.
Oui, et c'est une question qu'il avait reçue. Un des intervenants lui a demandé qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour empêcher la fuite des cerveaux. Et Obama lui a répondu, et pourquoi pas inverser la question, demandez-vous qu'est-ce que les États peuvent faire pour arrêter la fuite des cerveaux. Et Obama a cité un certain nombre de raisons qui seraient à la base de la fuite des cerveaux. Il a cité le sexisme, la discrimination, bien sûr, contre les femmes, les conflits potentiels, notamment le non-respect des constitutions ou des règles de jeu qui peuvent déboucher à des conflits, qui beaucoup de gens ont parti. Et il a parlé aussi Voilà, merci bien.
Oui, Bagassi, je vous écoute. Vous pouvez continuer.
Ah, ok. Voilà, donc il a aussi parlé aussi de l'application des droits, des droits dans les pays, le respect de la loi. Et il y a aussi ces barrières liées à la question à l'appartenance ethnique ou régionale. Si les pays africains s'investissent suffisamment pour réduire ces barrières, il a aussi parlé bien sûr de la corruption qui décourage okay. beaucoup d'intellectuels africains à retourner dans leur pays pour investir et pour travailler.
Merci, Bagassi-Koura.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma et Joseph était à la console. Présentation Tatiana Mosso et Chérubin Dorsier.
Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. Nous sommes sur Facebook et sur voaafrique.com.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.